J'ai cité une fausse référence, Galates 5, 10. Et il faut peut-être relire le bon verset. Galates 5, 10. Verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pour cela, à Sion, et aujourd'hui, nous avons une telle conscience concernant la Jérusalem céleste. L'Église n'est pas quelque chose de terrestre. Et comme les Hébreux, le livre d'Hébreux dit, ce n'est pas quelque chose de cette création et ce n'est pas fait de main d'homme. Nous avons tous des mains humaines et qui sont sales. L'Église est sainte et le Seigneur désire édifier une Église sainte. Et si nous ne bâtissons l'Église par Christ, et si ce n'est pas Christ en nous, alors nous n'arriverons pas. C'est pourquoi, durant 2000 ans, nous avons vu un mélange. Nous avons vu de la division parmi le peuple de Dieu. Chacun fait sa chose. Il fait ce qu'il veut. Chacun a son opinion. Chacun poursuit son chemin. Et à la fin, où est... Où est Sion? Où est la Jérusalem céleste? Si autrefois nous avons prêté attention à cela, ce vrai tabernacle ne peut être bâti que par le Seigneur et par aucun homme. Hébreux. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, ma tête est pleine d'Ésaïe. J'aurais dû dire Hébreux 8 et non Ésaïe 8. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce qu'il nous montre, et je crois que ceci est aussi dans le cœur de beaucoup de frères et sœurs, alors nous aurons la crainte du Seigneur de ne pas toucher l'Église avec nos mains humaines. Nous aimons bien juger selon notre propre jugement. Si l'Écriture dit que le Père ne juge pas, mais qu'il a donné le jugement au Fils, pensez-y, qui sommes-nous pour juger et ne pas tout donner au Seigneur et que ce soit lui qui juge? À la fin, nous jugeons selon notre propre vue, et c'est écrit dans Ésaïe 11 que le Seigneur ne juge pas, il ne juge pas selon lui dire. Nos yeux ne voient que l'extérieur et non l'intérieur. Même si les personnes disent la bonne chose avec la bouche, peut-être dans leur cœur, ils pensent autre chose. Apparemment, ils disent la vérité avec leur bouche, mais en fait, c'est un mensonge. Alors, comment est-ce que tu vas discerner cela? Ils disent une chose avec la bouche et autre chose est dans le cœur. Il a été envoyé, il n'a pas vécu par lui-même, il a eu confiance dans le Père. Alors combien plus devons-nous apprendre cela et nous devons faire la même expérience par l'Esprit aujourd'hui? ce que notre frère a lu dans 1 Pierre 2. Le Seigneur n'a pas jugé, mais il a remis le jugement à celui qui juge justement. Lui seul sait juger véritablement. D'autre part, nous devons pouvoir discerner. Cela veut dire qu'on ne doit pas discerner ce qui est juste, ce qui est faux. Hébreux 5 dit que si nous sommes exercés dans la parole de la justice et de la vérité, alors nous pourrons discerner. Seuls les enfants ne peuvent pas discerner. Mais si nous sommes mûrs en esprit, nous pouvons et nous devons discerner. Et nous devons juger justement. C'est pourquoi Paul, quoi qu'il ne soit pas à Corinthe, il a dit, j'ai déjà jugé depuis longtemps et j'ai fait mettre dehors ce frère pécheur. Nous avons besoin de ce Seigneur merveilleux. Nous devons être un avec lui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils insistent sur l'unité, mais la question c'est l'unité avec qui? Avec qui devons-nous avoir l'unité? J'apprécie beaucoup l'unité, mais pas seulement l'unité avec les personnes, mais d'abord, l'unité avec le Dieu trinitaire, glorieux et merveilleux. Et ça, c'est une unité dans Jean 17, où le Seigneur dit qu'on est un avec le Père est en lui, et lui, il est dans le Père. C'est cette unité dans laquelle le Seigneur aimerait nous amener aujourd'hui. L'unité avec les personne, ce n'est pas quelque chose de sûr. On ne peut pas se fier à cela. Peut-être que j'ai raison aujourd'hui, mais peut-être pas demain. Peut-être qu'aujourd'hui ça va bien, peut-être l'année prochaine plus. Tous les catholiques sont un avec le pape. Ils sont obéissants. Si tu es catholique, tu dois être un avec le pape. Et si tu veux observer une telle unité, tu dois toujours croire que le pape a raison, mais qui est infaillible. Il fait peut-être encore plus de fautes que tous les autres catholiques. Et est-ce qu'on ne peut pas transmettre cela à nous-mêmes? Beaucoup de personnes maintiennent qu'ils sont quelque chose, mais l'Écriture dit que nous ne sommes rien. Nous sommes des serviteurs inutiles. Vraiment. Est-ce que le Seigneur n'a pas dit, à part moi, vous ne pouvez rien faire. Aussi longtemps que nous avons du levain en nous, nous aurons des problèmes. C'est pourquoi nous avons la fête des pains sans levain. Nous devons tous faire sortir le levain, le vieux levain. Et qui dans l'Église peut oser dire qu'il n'a pas de levain? Qui va rejeter la fête des pains sans levain? Qui ose dire cela? Et qui ose juger les personnes qui désirent célébrer cette fête des pains sans levain? Que le Seigneur nous soit miséricordieux. Verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur. Notre confiance se trouve dans le Seigneur. Que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Est-ce que c'est écrit? Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, que le Seigneur lui pardonne, spécialement quand il est ancien. Est-ce que c'est écrit ainsi dans Galates 5, verset 10? Il dit, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, que ce soit le pape, un cardinal, un évêque, quel qu'il soit, ou qui qu'il soit, c'est égal. Il n'y a pas d'acception de personne auprès de Dieu et vous devez remarquer cela. Il n'y a pas d'acception de personne. Il n'y a pas de respect pour les personnes. Celui qui vous trouble, celui qui amène de la confusion, va devoir porter le jugement de qui? De Dieu. N'ayez pas peur du jugement des hommes, mais ayez peur du jugement de Dieu. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas montré? Est-ce qu'il ne nous a pas enseigné qui nous devons craindre? Nous respectons toutes les personnes. Nous le respectons tous. Pas seulement les anciens, mais tous les frères et sœurs. Pas seulement les collaborateurs, mais chaque frère et chaque sœur. Ils ont autant de valeur. Même aux yeux de Dieu, ils ont plus de valeur. Mais, si nous ne sommes plus en esprit, quoique nous parlions toujours d'esprit, mais le Seigneur dit, vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Je ne peux pas voir dans ton cœur. Je n'ai pas des rayons X, heureusement. Moi, je n'aimerais pas regarder dans le cœur de chacun. Ce serait affreux. Oh, je crois que j'aurai une crise cardiaque à la fin. Mais le jugement de Dieu, nous devons craindre le jugement de Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons dans un temps où le Seigneur va bientôt revenir. Beaucoup se réjouissent et disent, oh oui, Seigneur, reviens, reviens. Mais si on se rendrait compte de ce que c'est sa venue, on dirait, Seigneur, ne viens pas trop vite. Comme Ézéchiel a dit. Ah, je n'ai plus lu la Bible en allemand, alors désolé si il y a quelques fautes, donc Ézéchias. Parce que le retour du Seigneur est proche. Et c'est certainement pour cela qu'il nous parle du jugement dans Ésaïe. Ce n'est pas pour qu'on ait peur, mais c'est pour que nous ayons la conscience de nous préparer pour son retour. Pierre n'a-t-il pas dit, parce que le jour s'approche, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, faites attention à la manière dont vous vivez en toute sainteté. Ce n'est pas un avertissement afin que nous ayons peur, mais c'est un avertissement afin de nous aider de mener une vie qui lui est agréable. Et cela va nous qualifier d'entrer dans la gloire et de régner avec lui et d'avoir part à son royaume. Et si nous n'y arrivons pas, il y aura grincement de dents, pleurs et grincement de dents. Que désires-tu? Oh, c'est beaucoup mieux de ne pas croire au jugement et puis après, quand il revient, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ou préférez-vous avoir une saine crainte aujourd'hui, être pleinement réconcilié avec Dieu et ensuite, lorsqu'il reviendra, nous serons glorifiés avec lui, comme dit l'Épître aux Colossiens. Le jugement n'est pas pour nous faire peur, mais pour nous réveiller, pour nous encourager, pour nous aider, pour nous guérir. Et si le Seigneur me juge aujourd'hui, et si le Seigneur te juge, c'est une grâce. Hier, nous avons lu cela. Est-ce que tu es amer, que tu as été mis dehors? Tu dois dire, Alléluia, ça c'est un jugement. Mais, c'est pas notre faute. Mais pour nous, c'est le jugement de Dieu afin de nous amener à la gloire. Oui, s'il vous plaît. Si je vous dis cela, ce n'est pas un enseignement, croyez-le-moi. Par la grâce du Seigneur, nous avons été jugés souvent. Nous avons été mis en quarantaine. On a averti contre nous. Les frères et sœurs ont peur d'avoir de la communion avec nous. Ils veulent même pas me donner la main car ils ne veulent pas être contaminés par ce lépreux. Mais louez le Seigneur, c'est aussi très bien. Oui, vous voyez un lépreux ici. Louez le Seigneur, nous pouvons être joyeux. Moi, je dois vraiment les remercier. Parce que cela nous aide. C'est mieux que les gens disent quelque chose de mauvais à notre sujet qu'ils nous louent. Si on te loue, tu dois partir en courant. Apprenez du Seigneur. Lorsque le peuple voulait faire de lui le roi, n'a-t-il pas dit, enfin, ils ont reconnu que je suis le roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a disparu. Le prince a disparu. Nous devons apprendre à prendre ce pas, disparaître de cette manière. Lorsque tu te tournes vers ton esprit, tu disparais. Tu n'es plus. Tu n'es rien. Lorsque l'ennemi vient et il aimerait te donner une très haute position dans l'Église, alors il faut que tu disparais. Il faut que tu disparaisses. Tu disparais dans l'air. Personne ne sait où tu es. Et lorsque les personnes commencent à te louer, tu dois faire cela. Tu disparais. Tu dois apprendre cela. Mais si les gens te persécutent, disent que tu as fait toutes choses, des mauvaises choses. Alors, ne pars pas, mais accepte-le. Continue. Oh, je suis béni maintenant. Est-ce que ça c'est selon ta conception? Oh, est-ce que tu es amer? Est-ce que tu es fâché? Tu réagis? Ils t'ont repris et toi tu parles encore plus fort. Tu réponds. Si nous faisons cela, il n'y aura pas de gloire. Il n'y a plus de royaume. Car la récompense, c'est le royaume. Mais si nous causons des troubles, si nous causons de la confusion, alors ce n'est pas bien. Et si nous menons les saints sur un faux chemin, si Dieu aimerait faire quelque chose et moi je résiste à ce qu'il veut faire, alors cette personne qui a fait cela, il va porter la peine de ce qu'il a fait. Chaque mot a une signification merveilleuse. Cela veut dire qu'aux yeux de Dieu, personne n'est quelqu'un. Tu as de l'estime pour des personnes. Nous avons des préjugés aussi. Mais aux yeux de Dieu, nous ne sommes rien. Personne n'est rien.
Amen.
Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Oh, alors, nous ne voulons rien dire contre la circoncision. Autrement, nous serons persécutés. Mais la vérité, c'est la vérité. Même si une personne ne veut pas entendre, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu dis seulement ce qu'ils veulent entendre? Le scandale de la croix est donc aboli. Ce serait terrible. Le scandale de la croix est donc aboli.
Amen.
Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Est-ce qu'on va relire les versets d'hier ou non? Peut-être. On prend le résumé aujourd'hui, sinon on ne va jamais pouvoir terminer. On ne va jamais pouvoir parcourir tout le résumé pendant cette conférence. C'est une question de Christ et de son royaume. Ésaïe, il a mis en lumière beaucoup de choses. Il a montré combien c'est terrible. Rappelez-vous que le jugement commence avec nous, comme dans l'Apocalypse. Le jugement du monde commence au chapitre 4 et 5. Ça commence par le trône. Le Seigneur, il est monté et il a pris ce petit livre pour toute l'administration du monde. Et ensuite, il a ouvert les sceaux au chapitre 6 et tout a commencé. Mais les chapitres 1 à 3, ça vaut pour nous. C'est valable pour nous. Le jugement commence toujours dans la maison du Seigneur. Si le Seigneur ne peut pas mettre de l'ordre chez nous, comment va-t-il mettre de l'ordre partout? Si tout est permis chez toi, si aujourd'hui tu laisses les jeunes faire ce qu'ils veulent, ils ont simplement besoin de liberté. Et quelqu'un a donné un message concernant Luc 15. Ils ont parlé du fils prodigue. Et c'est le fils, le premier fils, il n'a pas pu aller à des soirées. Pouvez-vous vous imaginer cela? Alors, dans l'église, chaque samedi soir, nous devrions avoir des parties, des sorties, des soirées. Et personne n'a rien dit. Personne n'a dit quoi que ce soit à ce sujet. Nous laissons simplement faire. Chacun peut dire ce qu'il veut. Est-ce que c'est ça l'Église? Est-ce que c'est la maison du Dieu vivant? Cela veut dire que personne ne prend égard à Dieu. On peut dire ce qu'on veut. Comme si Dieu n'entend pas. Esaïe dit, Dieu ne voit pas, il n'entend pas. C'est comme les gens qui ont des yeux et ne voient pas, qui ont des oreilles et n'entendent pas. Et penses-tu que notre Dieu est ainsi? Certainement pas. Et c'est pourquoi nous devons aller de l'avant aujourd'hui. Nous devons connaître ce Dieu merveilleux, juste. Il n'est pas selon nos conceptions et pour cela nous avons besoin de l'Écriture. Donc les chapitres 1 à 12, Dieu s'occupe du jugement de son peuple. Pas pour les rejeter, il fait de son mieux pour les sauver. Mais à la fin, nous avons vu à Bad Kissingen, nous avons vu qu'il n'y a qu'un petit reste. Un petit reste. Car la plupart ne le voulaient pas. La plupart n'ont pas d'oreilles pour entendre. Ils ne veulent pas entendre. Si l'homme intérieur n'est pas constamment renouvelé, la batterie est plate. La batterie intérieure est usée. Cela veut dire que nous devons toujours être accomplis du Saint-Esprit. Les actes nous montrent qu'ils ont toujours été de nouveau renouvelés. Ils étaient remplis de l'Esprit. Dans Éphésiens 5, Paul dit, soyez remplis de l'Esprit.
Amen.
Donc après le jugement sur son propre peuple, après le jugement a été exécuté sur son propre peuple, Dieu est venu vers les nations qui se trouvent autour de Jérusalem et qui ont toujours essayé de détruire Jérusalem, de l'engloutir. Ils ont essayé de voler, de prendre l'héritage. Nous avons lu cela dans Jérémie hier. Tous les pays des alentours, toutes les nations, voulaient toucher l'héritage de Dieu, voulaient le détruire. À la fin, nous sommes nous-mêmes la cause de cela. Si la relation d'Israël avec Dieu est juste, s'ils avaient été fidèles, qui pouvait toucher Jérusalem? Qui pouvait toucher Sion? Qui peut détruire sa maison? C'est impossible. Mais si nous-mêmes nous ne sommes pas en ordre, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix, et ça commence depuis les pieds jusqu'à la tête, ou plutôt depuis la tête jusqu'aux pieds. Nous devons apprendre de cela. Seulement un petit reste. On ne peut pas s'attendre à ce que beaucoup veulent prendre le chemin du Seigneur. Alors il y a le jugement de l'Éternel des armées sur les nations et sur toute la terre, et toutes ces nations sont près de toi, pas très loin de toi. La vie est en toi. Le Seigneur est en toi. Il y a l'esprit de l'amour, l'esprit d'une intelligence saine. Tout nous est donné. Le Seigneur est en nous, l'espérance de la gloire, mais ça s'est entouré par Stuttgart, par Pliningen, s'est entouré par le monde. Par exemple, qu'est-ce que le monde? Mercedes, Porsche, téléviseur, de l'argent, quoi encore? Le travail, quoi encore? Pour une personne religieuse, ne pas aimer le monde, cela veut dire que tu habites caché quelque part dans Schwarzwald. Il y a seulement des oiseaux, des renards, des vaches. Alors, tu n'aimes plus le monde. Tu es dans un monastère. Mais ça, c'est la pire chose que tu puisses faire. Mais que dit Jean? Qu'est-ce que le monde? C'est les désirs de la chair. C'est les désirs, les convoitises des yeux. C'est la vanité de la vie, l'orgueil de la vie de l'âme. Ça, ce sont les nations. Ça, c'est les nations qui entourent l'héritage d'Israël. Et ils attaquent. Et si vous leur donnez de la place, si vous leur cédez alors l'héritage de Dieu sera détruit. Si tu commences à dire « je suis l'ancien, je suis celui qui est responsable, je suis responsable pour ceci et pour cela. » Pour toutes les décisions, vous devez venir vers moi. Alors ça, ça détruit l'héritage. Si les saints ont beaucoup de liberté, s'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, oh, ne soyez pas si étroits. Servir. Si tu sers trop dans la maison du Seigneur, c'est dangereux. Tu seras comme le premier fils dans Luc 15. Son problème, c'était qu'il était tellement fidèle et il a manqué toutes les soirées, toutes les sorties. C'est pour cela, à la fin, il était envieux. Alors, comment vas-tu réagir? Bien sûr, je ne peux pas parler de tous les détails, mais vous comprenez le principe. Si vous comprenez le principe, ça suffit. C'est important. C'est important. Tout ce que nous avons à Sion, c'est ce Christ merveilleux. Tout le reste, c'est pour notre vie aujourd'hui, c'est pour notre existence. C'est pourquoi Paul dit dans Timothée que nous devons être contents de ce que nous avons. Et cette convoitise n'est pas seulement les choses extérieures, mais avoir de la puissance, avoir de l'honneur, recevoir des louanges des personnes comme les pharisiens, comme les scribes, comme les anciens. Il voulait être reconnu. Si je ne peux pas avoir de la puissance, du pouvoir dans le monde, je veux au moins l'avoir ici dans l'Église. Et ce pouvoir est dangereux. Après, on devient dépendant de cela, à moins d'avoir la conscience qu'il y ait ce danger. Nous voyons que nous sommes entourés. Nous sommes entourés de toutes ces nations, de toute cette chair déchue. Pensez-vous que seulement on joue à la politique dans le monde? L'Église aussi le fait. Non? Je ne connais pas les églises ici en Allemagne, mais qu'est-ce que tu en penses, frère? Pas de politique? Ah oui. C'est aussi terrible. Nous devons comprendre cela. Dieu, il va juger tout cela. C'est pourquoi Paul dit, après avoir appris d'obéir, alors Dieu, il va juger toute désobéissance. Sinon, tu vas aussi être jugé avec. Dieu ne peut pas juger la désobéissance du monde s'il n'a pas encore jugé notre rébellion. Sinon, moi, je dois être jugé avec eux. Je crois que nous devons tous saisir cela. C'est pourquoi le jugement doit commencer dans la maison de Dieu, mais pas selon la sagesse humaine, mais c'est celui qui juge. Et lorsque Dieu nous juge aujourd'hui, c'est pour nous guérir, c'est pour nous rendre saints. Pas selon le jugement humain, mais selon le jugement de Dieu. Seul le jugement de Dieu est juste. Maintenant, le jugement de l'Éternel des armées sur les nations et sur toute la terre. Chapitre 13 à 27, nous n'avons plus de temps. Ça ne fait rien. Tout est écrit. Nous commençons. Babylone est une expression très importante dans l'Écriture. Et je prends cette occasion de parler plus de Babylone avec vous. Au temps du peuple d'Israël, il y avait Babylone. On trouve que le mot Babylone est écrit en grandes lettres, en lettres dans l'Apocalypse. C'est écrit en majuscule. Afin que tous remarquent. Même si tu ne vois pas très bien, tu vas quand même remarquer Babylone en majuscule. Babylone, la grande, ce n'est pas Babylone, la petite. Ce qui est mentionné en premier dans le livre d'Ésaïe, c'est Babylone. Car Babylone était la première ville qui a été construite après Noé, Babel, la tour de Babel. Connaissez-vous la tour de Babel? D'abord, j'aimerais parler de ce terme, Babylone. Spécialement dans Ésaïe, nous voyons que Dieu, il a parlé de manière prophétique concernant Babylone, parce que rien n'était encore passé. Il n'y avait pas encore de captivité. Et c'est ce qui est si merveilleux avec ce prophète. Il parle de Babylone, quoique Babylone n'existait pas. Et aujourd'hui, nous avons Babylone et nous n'y croyons pas. Tout est à l'envers. Aujourd'hui, Babylone est devant nos yeux et nous ne le croyons pas. Nous ne voulons pas parler parce que nous allons les offenser. C'est interdit de parler de Babylone. Nous ne voulons pas parler de Babylone. Que sommes-nous devenus? Babylone. Ils ont même de la compassion pour Babylone. Ils ont même peur de Babylone. comme le peuple en ce temps-là. Et si nous sommes devenus comme cela, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Babylone est un endroit où il y a une captivité pour le peuple de Dieu. Et le mot signifie confusion, mélange, division. Chacun suit son chemin. Personne ne voit la même chose. En ce temps-là, ils étaient vraiment un, et aujourd'hui, plus. Ils n'étaient plus un. Parce que c'est très dangereux d'être un. Comprenez-moi bien. Si tu observes une fausse unité, ça c'est dangereux. Si c'est une unité humaine, c'est-à-dire, je dois être un avec toi, tu dois être un avec moi. Est-ce que toi tu es parfait? Est-ce que je suis parfait? Alors, pourquoi veux-tu être un avec moi? Pourquoi je veux être un avec toi? Ça, c'est une unité imparfaite. Alors, nous avons une double perfection. Et ça devient, c'est toujours de plus en plus profond, et nous allons construire une tour avec beaucoup d'idoles au nom de l'unité. L'unité peut être dangereuse. Oh, les gens vont dire, John est contre l'unité. Est-ce que je suis contre l'unité? Je suis contre une unité babylonienne. Je suis contre une unité qui est faite par les hommes. Je suis contre l'unité du Vatican. Mais j'apprécie la vraie unité avec notre Dieu vivant. En Christ Jésus, un avec le Père. Il vit en nous et nous en lui. L'unité du Père avec le Fils, l'unité du Fils avec le Père. En dehors de cette unité, il n'y a pas une autre unité. Dans ce sens-là, je veux vous avertir aujourd'hui et tous ceux qui entendent ce message, ce genre d'unité humaine va nous mener à un point dangereux. Cela va nous amener à la division. Ça amène à la confusion. Et à la fin, nous ne construisons la maison de Dieu, même si nous croyons que nous sommes. Vous pouvez être convaincus que vous construisez ce qui est juste, mais à la fin, ce sera la tour de Babel. Est-ce que tu oses dire cela? Frère, vas-tu donner un tel message? Ce n'est pas si simple. Nous avons aussi besoin d'une compréhension plus profonde de Babel. Ça, c'est Babylone. Et depuis le début, ce principe va rester jusqu'à la fin, jusqu'à l'Apocalypse. Dieu ne va pas changer. Ah, Satan, il ne va pas changer, mais Dieu ne va pas changer non plus son but. Nous voyons la fin. Nous voyons la fin dans Apocalypse. Nous voyons Babylone et Jérusalem. Soit tu bâtis Babylone, soit tu bâtis Jérusalem. Il n'y a pas d'autre possibilité. Nous devons voir clairement ce que nous bâtissons aujourd'hui. Est-ce que nous bâtissons la ville de Dieu, la Jérusalem céleste? Le Seigneur dit, je fais toutes choses nouvelles. Et dans Ésaïe 43, il dit, le prophète dit, c'est-à-dire le Seigneur dit par le prophète, oublie le passé, oublie ce qu'il y avait. Vois, je fais toutes choses nouvelles. Mais eux, ils disent, ah, nous avons déjà tout vu. Nous avons seulement besoin de réchauffer la vieille révélation. Tout est à l'envers. Toujours à l'envers. Nous voulons oublier ce qui était en arrière. Pas parce que c'était mauvais, mais parce que Dieu, il fait toujours quelque chose de nouveau. Nous devons toujours aller de l'avant. Ce n'est pas que Dieu a découvert quelque chose de nouveau et que ce que nous ne voyons pas. Dieu n'a pas besoin de nouvelles révélations, mais toi et moi. Parce que nous ne voyons pas loin. Si je peux seulement voir la rue là-bas, ça ne veut pas dire que ça c'est Grünberg. Grünberg est beaucoup plus grand que ce que je peux voir avec mes propres yeux. J'ai besoin d'une nouvelle révélation. Il faut que je sorte, puis après je verrai encore quelque chose de plus. Mais je suis tellement têtu et je pense, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Même si tout s'écroule, même si le plafond est tombé, oh, c'est ça, et je reste là-dedans, non? C'est dommage. C'est vraiment très dommage. Nous devons aller de l'avant. Nous devons voir beaucoup plus. La parole de Dieu a préparé beaucoup de choses pour nous. Alors on ne pourra plus chanter ce chant. Plus de lumière et plus de vérité. On ne peut pas chanter ce chant parce qu'on a tout vu. Plus de lumière et plus de vérité. On ne doit plus chanter ce chant. Si on ne croit pas que Dieu a encore plus de lumière et de vérité pour nous. Ils ont besoin d'un nouveau classeur de chants. Il faudrait enlever certains chants. Seigneur Jésus. Babylone n'est pas très éloignée de vous. Ce serait beau s'il ne s'agissait seulement du Vatican. Ici, nous voyons le jugement sur Babylone. Et Dieu avait déjà averti par Ésaïe. Mais ce jugement de Babylone, on voit que Dieu, il avait averti à l'avance qu'il y aurait ce jugement sur Babylone. Il avait déjà tout décrit, déjà à l'avance. Pouvez-vous vous imaginer cela? C'est une preuve que Dieu est véritablement Dieu. Il sait tout. Il sait tout avant que les choses se passent. Et c'est pourquoi, avant la fondation du monde, il avait prévu l'agneau. Avant la fondation, avant la création du monde, quel Dieu! Nous devons reconnaître cela. Si tu dois reconnaître Dieu, tu dois voir comment est-il Dieu. Beaucoup de gens ne croient pas à l'Écriture parce qu'ils n'ont pas lu les Écritures. Mais si nous lisons la Bible, nous voulons connaître ce Dieu. Et tu verras que tout a été prévu par lui. Il ne va pas changer la chose, mais il a déjà une solution. Il sait très bien ce qui va se passer. Et c'est pourquoi nous devons croire que Dieu savait ce qui allait se passer déjà depuis la fondation du monde. Que nous nous trouvions ici, c'est aussi prévu par Dieu. Si tu vois cela, alors tu as de la paix, de la joie et de la reconnaissance. Amen. Oublie ce qui est en arrière. Dieu, il avait déjà tout prévu. Nous devons avoir confiance en lui. Et c'est pourquoi nous voyons dans Ésaïe. Dieu a parlé par Ésaïe pour dire, je suis Dieu. Tout ce qui se passe maintenant, je l'avais déjà prévu à l'avance. Je l'avais déjà prédit afin que vous voyiez et que vous sachiez que je suis. Et ce qui va se passer plus tard, je vous le dis maintenant. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce que Dieu le savait déjà à l'avance. Moi, je le savais pas. Tu ne le savais pas. Nous étions tous étonnés. Qui n'est pas étonné ici? Nous n'avions aucune idée que ça allait se passer ainsi. Ou est-ce que tu avais déjà une idée? Frère, pensais-tu que ça allait arriver? Non, tu t'es réjoui. Oh, je suis dans l'église. Oh, j'ai trouvé le Seigneur. Et puis, lorsque les choses sont arrivées, nous étions tous perplexes. Quoi? Comment? Mais, si nous voyons que Dieu le savait déjà à l'avance, pensez-vous que Dieu était excité? Si tu avais déjà su à l'avance, tu n'aurais pas été étonné, surpris. Maintenant, avec mes cheveux gris, je ne m'excite pas trop rapidement et je dis simplement Amen. Seigneur, tu le sais. Je peux avoir confiance en lui. L'Écriture dit qu'il savait tout à l'avance. Nous parlons de faute, comment ça se fait, pourquoi. Nous avons tant de choses à dire. Moi, je n'ai plus rien à dire. Je dis seulement une chose. Dieu savait déjà tout. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Dieu le savait. Et ça suffit. C'est l'heure. Une pause. Est-ce que vous vous êtes bien reposé après le voyage?